Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première série estivale d'épisodes. Cet été, je vous propose un contenu 100% sans filtre, sans tabou, avec des entrepreneurs de tous les horizons sur des sujets qui m'intéressent et qui, je n'en doute pas, vont vous intéresser également. Pour celles et ceux qui regardent, écoutent le podcast pour la première fois, je m'appelle François Allais et j'ai créé ce podcast en décembre 2017. Il est disponible aussi bien ici, sur toutes les plateformes audio, que sur YouTube en vidéo. Serial Entrepreneur fait donc son retour aujourd'hui pendant 6 semaines avec 6 épisodes tout l'été, tous disponibles en vidéo et en audio. Pour ce 24e épisode, j'ai reçu à distance une jeune entrepreneure passionnée et passionnante, Soraya Jaber. Elle a cofondé Minsar, un CMS pour créer des expériences immersives en 3D sans avoir besoin de coder. Avec elle, on parle de son parcours, des étapes de création de Minsar, de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée et bien d'autres sujets pendant une cinquantaine de minutes. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast et à t'abonner à ma chaîne sur YouTube, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute et à la semaine prochaine. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Soraya Jaber. Salut Soraya.
Hello François, merci pour l'invitation.
Très heureux de t'accueillir à distance pour ce nouvel épisode. Soraya, tu es la CEO et la cofondatrice de Opuscope, qui est finalement un CMS pour les expériences immersives qui a été fondé en 2016. Tu es également vice-présidente de la VR-AR Association de Paris. Et donc, on va pouvoir commencer cet épisode très tranquillement avec ton parcours et notamment quel a été ton parcours avant d'entreprendre, c'est-à-dire avant de créer justement Opuscope.
Oui, alors déjà, je suis ravie d'être dans ce podcast. Merci pour l'invitation encore. Donc, j'ai un parcours très atypique dans le sens où j'ai pas suivi un peu la voie royale pour entreprendre. J'ai pas fait de prépa, d'école de commerce, HEC. En fait, c'est un petit peu tombé par hasard, on va dire, à l'entrepreneuriat. Ça m'est tombé très jeune. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure. Et moi, du coup, en fait, après avoir fait un bac scientifique, je me suis lancée dans une licence d'histoire de l'art. Parce qu'avant tout, en fait, je suis passionnée par l'histoire, par l'art, par la culture. Et j'ai pas suivi la voie un peu familiale où j'ai une famille de scientifiques. Et après avoir fait, voilà, pendant mon bac scientifique, je devais faire médecine, enfin, voilà, suivre un petit peu cette voie. Et c'est en terminale que je me suis rendu compte qu'en fait, ma passion, c'était vraiment l'histoire, l'art, la culture. Et que j'avais envie, et que je savais que de toute façon, pour réussir, il fallait être épanoui dans ce que l'on fait. Et donc, j'ai suivi ce qui me passionnait vraiment, qui n'était pas du coup forcément les sciences ou les mathématiques, mais bien la culture. Et j'ai intégré donc la licence histoire de l'art à Paris 1 pendant Sorbonne.
Ok. Et justement, quel a été le déclic en fait qui a fait que tu as créé Opuscope ?
En fait, c'était au cours de ma troisième année, avant ma troisième année de licence. En parallèle du coup de mes études, je travaillais au musée des arts décoratifs en tant que job étudiant, week-end, soirée. Et en fait, je me rendais compte que à l'université, voilà, on a beaucoup de personnes qui se rendent de façon régulière dans les musées, mais qu'en fait on est vraiment une sorte de minorité et qu'au final, enfin, il y a un chiffre qui m'a vraiment un peu interloqué. C'était en 2015, je me suis rendu compte, j'ai appris que même pas 10% de la population française se rend plus d'une fois par an dans un musée. Donc ça m'a, enfin je me suis dit voilà, on est vraiment pas assez sensibilisé, on n'a pas l'habitude d'y aller. Ouais, je sais pas si toi tu y vas régulièrement.
Ouais, moi j'ai plus le temps d'y aller, mais occasionnellement c'est vrai que, enfin sur une année c'est vrai que c'est pas très régulier quoi, comme on voudrait.
Moi j'y étais du coup toutes les semaines, enfin ça me passionnait, je me disais mais c'est dommage parce qu'on a un patrimoine, une culture assez incroyable voilà comment on va pouvoir sensibiliser plus de personnes à s'y rendre. Et c'est avec mon meilleur ami du coup Thomas qui lui était à l'époque donc il était à Paris Descartes en informatique et il était également le développeur principal de VLC Media Player. C'est le petit cône orange pour lire les vidéos.
Connu mondialement.
Exactement. Et c'est d'ailleurs le premier logiciel français téléchargé à travers le monde.
C'est assez
fier de. Ouais.
C'est clair.
De ce qu'a fait les équipes VLC, de ce qu'ont fait les équipes. Et voilà, il développait donc la plateforme pour Microsoft. Et en fait, tout est parti d'une séance cinéma, d'un film qu'on a vu ensemble, et d'une phrase assez bête en sortant du cinéma où j'ai lancé mais ce serait incroyable de pouvoir visiter en fait de façon immersive les lieux culturels. Et justement, donc, Thomas me dit à ce moment-là, mais tu sais que c'est possible, c'est en 2015, et il me dit, mais tu vois, enfin, tu prends il y a la réalité virtuelle, je connaissais pas du tout à l'époque. Il me dit, avec un casque, en fait, tu peux, naviguer dans des environnements virtuels, et pourquoi pas la culture. Là, je me dis, waouh, c'est incroyable, je me sais pas encore. Et du coup, on achète un Oculus, un DK2 à l'époque, on commence à tester, on voit le potentiel. Je me dis, mais c'est absolument incroyable, c'est la possibilité, de visiter des sites culturels, des musées, depuis chez soi, depuis son salon. Et c'est là qu'est un peu né, du coup, le début, l'origine d'Opuscope, dont l'objectif était de réinventer, en fait, les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Donc, à la fois la réalité virtuelle, en utilisant des casques, être en immersion dans un autre monde et donc couper de ton environnement, et à la fois, en fait, ramener le public, les jeunes publics aussi, sensibilisés aux nouvelles technologies dans les lieux culturels par la réalité augmentée. Donc, cette fois, vraiment augmenter l'environnement, augmenter les salles muséales, les châteaux, les monuments, par cette réalité augmentée. Okay. Ça, c'était le tout début. On est encore en 2015 et ce sont les prémices de l'entrepreneuriat. Ouais. On a chacun 19 ans. Je rentre en troisième année de licence. Thomas, il rentre à Epita. Et ce petit projet, en fait, commence à prendre de l'ampleur. J'en parle, du coup, au sein de mon université. Ils sont très intéressés, du coup, par le projet. Ça monte assez rapidement au sein de l'université, qui devient nos premiers partenaires, donc pas rien. Et également, du coup, le musée des arts décoratifs dans lequel je travaillais devient aussi un de nos premiers partenaires. On commence à itérer, à voir comment créer ce futur de la visite muséale. Et on débouche du coup sur l'immatriculation d'Opuscope en février 2016.
Ok, donc j'allais te poser du coup comme question comment as-tu rencontré ton associé, mais du coup c'est en fait ton meilleur ami et avec lui vous avez créé Opuscope du coup. Et du coup quelles ont été les étapes de création de ce produit, enfin du premier produit du coup Minsar
suite à ta création? Alors, ouais, il y a eu pas mal d'évolutions depuis.
Ouais.
Là, plusieurs
noms, j'ai cru comprendre.
Il y a eu plusieurs noms, mais promis, ça y est, on ne change plus. C'est Minsar. S'il y a un nom à retenir, même pas Opuscope, vraiment, c'est la structure juridique. C'est vraiment juste pour.
On parle que de Minsar.
On parle que de Minsar. Et donc ça, c'était vraiment le tout début. C'était le tout début d'Opuscope. C'est pour ça que j'étais pas forcément prédestiné à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si. Depuis toute petite, voilà, j'adore créer des projets, j'adore fédérer des personnes autour de moi pour construire quelque chose. Et là, du coup, c'était notre première entreprise que l'on fonde donc début 2016. Mmh. Et en fait, tout est allé assez rapidement. Thomas, il était également à l'époque, il s'est fait nommer Microsoft Regional Director, qui est en fait le statut de consultant le plus haut pour les équipes produits de Microsoft, ce qui nous a permis en fait d'être une des premières entreprises en Europe à avoir les Microsoft HoloLens. Je ne sais pas si tu connais. On l'a eu début 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Microsoft HoloLens, c'est une paire de lunettes de réalité augmentée. On parle aussi de réalité mixte parce qu'on va aller du coup ajouter en fait du virtuel dans l'environnement sans être coupé de cet environnement. Et donc, on a commencé début 2016 à concevoir des expériences pour cet appareil. Au début, uniquement pour la culture. Et en fait, très rapidement, on s'est fait approcher par de très nombreux secteurs, en fait. Pas uniquement la culture, justement. Et on voyait qu'il y avait énormément d'intérêt pour cette technologie. C'était le tout début. Ça venait de sortir et tout le monde voulait avoir un petit peu son POC, son proof of concept de ce qui est du coup la réalité augmentée, réalité mixte dans leur core business. Et on s'est rendu compte que en fait, le potentiel de cette technologie, il est énorme, mais un peu dans toutes les industries.
C'est ça.
Et on s'est rendu compte très rapidement que voilà, ça pouvait pas rester uniquement dans un secteur. Et qu'en fait, la véritable problématique, c'était pas, enfin, qui était du coup liée au début à la culture, mais en fait, c'est une problématique de création, de créativité. Ouais. Et la problématique à l'époque, et on la retrouve encore aujourd'hui, c'est la création en fait de ce contenu 3D, de ce contenu de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à créer du contenu pour ces nouvelles plateformes, que ce soit donc des casques de réalité virtuelle, des paires de lunettes de réalité augmentée. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment dès l'été 2016 à se dire que la brique techno qu'on utilisait en interne pour créer facilement des expériences pour nos clients, que ce soit la culture, que ce soit on a fait des POC pour l'industrie, pour pour tous les secteurs pour voir en fait l'intérêt de la techno. En fait, ce dont l'industrie allait avoir besoin, c'était d'une plateforme pour créer ces expériences, pour être autonome en fait dans la création. Et on a compris très rapidement en fait dès l'été 2016 que c'était un SaaS, c'était une plateforme qui allait être le prochain challenge pour l'industrie, qui était donc qui est vraiment de créer facilement des expériences. Et notre postulat est vraiment que la création 3D doit se faire en 3D. On doit visualiser en fait, tu vois, que ce soit dans un musée où tu vas aller augmenter une salle muséale, ou que ce soit en retail, en store, où tu vas pouvoir créer une expérience plus immersive, plus engageante pour le client.
Ok, donc la mission, c'est vraiment rendre accessible la création de contenu en réalité virtuelle et en réalité augmentée, c'est ça ?
Exactement. On a élargi un peu le scope en développant une plateforme vraiment horizontale.
En fait, c'est ce qu'on appelle la XR, du coup, la réalité étendue, c'est ça ?
Ouais, étendue, plus le X comme le petit X pour réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Justement, on s'y perd un peu.
C'est vrai, quand on n'est pas dedans. C'est pour ça de rappeler les différents termes.
En fait, souvent, quand j'explique la différence, je me base sur en fait la première fois que ça a été théorisé. Ce sont pas des nouveaux termes. La réalité mixte, ça a surtout été déployé avec Microsoft en 2015-2016. Mais en fait, le terme de mixed reality a été théorisé en 1994.
Okay.
Tu vois, j'étais même pas encore née. Je crois que toi non plus. Donc voilà, ça fait pas si longtemps. Mais, et en fait, en 94, on a Paul Milgram et Fumio Kishino qui ont défini le Reality Virtuality Spectrum, qui est en fait un spectre qui va de notre environnement physique, réel, tangible, donc sans technologie. Et l'autre extrémité du spectre, c'est la réalité virtuelle, complètement virtuelle. Cette fois, tu vois, tu as un appareil et tu es coupé de ton environnement.
Okay.
Et en fait, c'est comme un curseur, tu vois, du coup, la réalité augmentée, c'est un curseur que tu vas placer sur ce spectre où tu vas du coup ajouter du virtuel dans ton environnement. Et l'appareil de réalité mixte, c'est un petit peu du coup cet appareil ultime qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, mais qui est un appareil qui sera capable de couvrir tout ce spectre, dans le sens où tu vois, tu pourras décider de pas ajouter de contenu dans l'environnement, ou alors ajouter énormément de contenu jusqu'à être en totale immersion. Et aujourd'hui, les appareils qu'on a, donc que ce soit Microsoft HoloLens, Magic Leap, je pense qu'on en parlera après, ou Unreal, enfin voilà, les constructeurs émergents, il n'y a pas encore d'appareil qui permet d'avoir une totale immersion, parce que le champ de vision n'est pas encore de 90, 100, 180 degrés, tu vois. Donc c'est
Ok. Et pour revenir un peu on va revenir à ce sujet-là, mais pour revenir aux étapes de création, quand est-ce que vous avez officiellement lancé, du coup, Minsar, on va dire une V1, quoi?
Ouais. Il y a eu plusieurs étapes. Du coup, la première étape, qui était, uniquement culture. Mmh. On a commencé, du coup, à réfléchir à cette plateforme, à ce logiciel, à partir de été 2016. Donc à l'époque, le logiciel s'appelait Holostoria. Holostoria parce que justement, on avait conçu en partenariat avec Microsoft HoloLens. Et voilà, et nous, notre positionnement était vraiment de créer une plateforme immersive, donc d'exploiter vraiment les capacités de ce qu'on appelle l'informatique spatialisée, qui n'est pas donc cette informatique comme on le connaît, tu vois, bah, ton ouais. écran, mais qui va vraiment comprendre l'environnement et qui va aller l'enrichir, l'augmenter par du contenu en le reconnaissant. C'est beaucoup de d'IA derrière, de reconnaissance de l'environnement, de scan, d'ajout d'informations. Voilà. Et donc, Holosauria, on commence le développement été 2016. À l'époque, on avait une équipe de deux développeurs. Donc, c'était voilà, vraiment le tout début. Un de nos choix, en fait, qui nous a différencié aussi de ce qui existait à l'époque, c'est qu'on a très rapidement, en fait, recruté notre troisième employé, donc une expert UX, donc expérience utilisateur.
Oui.
Parce qu'au final, enfin, vraiment, l'utilisateur est au centre. Dans le sens où, développer une technologie uniquement pour développer une technologie, sans penser à la fois l'utilisateur et également à la personne à la fin qui va visualiser l'expérience, bah, ça n'a pas d'intérêt. Ça va rester une brique techno et ce ne sera pas forcément bien utilisé. C'est pour ça qu'on a très rapidement en fait mis l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur au centre du développement, dans le sens où on voulait vraiment rendre intuitif, simple la création. Donc ça, voilà, dès 2016, c'est ce qu'on a souhaité faire. On a compris que le développement de cette plateforme, ça allait prendre du temps. Que voilà, il y avait encore plein de challenges à régler, que ce soit au niveau hardware, enfin niveau
ouais, c'est un énorme
appareil.
Produit tech, quoi.
Ouais, c'est une énorme brique tech, surtout que enfin l'ambition dès le départ c'était d'être cross plateforme, donc d'être à la fois disponible sur HoloLens mais également les casques de réalité virtuelle et les plateformes émergentes, donc de réalité augmentée. Et plus tard on a aussi intégré du coup smartphone, tablette, parce que le marché est là aujourd'hui. C'est pas encore démocratisé les appareils. Et voilà, donc on a compris que voilà, on avait besoin de chercher des fonds pour financer, développer cette plateforme. Donc très rapidement, en fait, en 2016, on a commencé une première levée de fonds, donc en amorçage. À l'époque, on avait voilà plein d'idées, une grande ambition, réinventer, enfin voilà, la création. Et justement, moi étant passionné d'histoire avant tout, ouais. Ce que je fais tout le temps, c'est étudier en fait le passé, comprendre aussi les patterns, parce qu'au final, enfin, ça c'est cyclique, ça se répète. Là, enfin, l'évolution, c'est les hardware, elle est dans le sens de compréhension de l'environnement. Mais derrière, pour créer du contenu, on peut faire le parallèle avec le début des années 2000, où on a le web, et créer la moindre page sur le web nécessite des développements. On n'a pas encore de plateforme début 2000 permettant de créer facilement une page web, créer un blog, etc. Et enfin, en 2003, on a eu Révolution WordPress, ensuite tous les autres CMS qui ont permis voilà, de pouvoir donner en fait aux créateurs, aux créatifs, la possibilité de s'exprimer et de créer du contenu sans avoir soit à monter en compétences techniques, être développeur, soit faire appel à un développeur et perdre un petit peu du coup le cycle de l'idée jusqu'à la délivrance du produit. Okay. Nous, c'est exactement ce que l'on fait, c'est donner en fait le pouvoir un petit peu aux créatifs, tu vois, pour les laisser autonomes dans la création. Parce qu'on sait que tant qu'il n'y aura pas de plateforme, d'outils simples d'utilisation, avec respectant des standards permettant de distribuer aussi facilement ce contenu, une technologie ne pourra jamais être démocratisée. Il faut vraiment libérer les créateurs, les créatifs. Ce qu'on a vu avec la vidéo, hein. Aujourd'hui, on peut très facilement, même nous, on fait un podcast, etc. Mais voilà, ça a pris du temps. Au début, c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, on répète en fait des patterns qui.
Ouais, carrément. Et du coup, donc, c'est cette première mini levée de fonds. Ensuite, je crois que vous avez levé plusieurs fois aussi. Une première de environ 300 000 euros. Ensuite, un peu moins d'un million. Et là, plus récemment, il y a quelques mois, 3 millions, c'est ça?
C'est ça. En fait, on a fait notre… c'était une levée amorçage qu'on a fait en deux temps avec les mêmes investisseurs, donc des business angels du groupe Investors ou Lake Startup. Je ne sais pas si tu connais, mais ouais, on a levé assez rapidement avec eux.
Comment vous avez fait, du coup, cette première levée, justement, notamment vis-à-vis de votre âge, des deux fondateurs que, comment,
Bah, tu sais, on ne disait pas notre âge. C'est vraiment tout récemment depuis non mais bon il enfin
oui.
On était jeunes, on a pris un peu des non, pas encore des cheveux blancs mais enfin on a pris de l'âge avec les années, mais oui non, clairement on nous voyait comme deux petits extraterrestres qui parlaient d'une techno qu'ils comprenaient pas, Mais en fait, on était tellement complémentaires, dans le sens où Thomas, voilà, c'est un génie de l'informatique. Il a été, c'est le plus jeune Microsoft Regional Director. Ils sont une cinquantaine à travers le monde. Il a été nommé pour son troisième mandat. Il a refait, voilà, enfin, toute la version VLC sur Windows tout seul. Enfin, il est vraiment impressionnant. Et moi, bah, c'est plus la partie business, fédérer les équipes, aller chercher des financements. Rêver, la vision aussi, tu vois, vraiment de la créativité. Enfin, c'est passionnant ce qu'on fait, c'est passionnant ce qui va arriver, le potentiel de cette techno dans tous les secteurs, soit même l'éducation, même, enfin, voilà, je pense qu'on en parlera après, mais donc ouais, au début c'était difficile, hein, clairement, de lever des fonds aussi jeune, plus en tant que femme dans la tech. Ouais, des fois c'était un peu compliqué. Des fois, en fait, on regardait que Thomas. Enfin, moi, ça va beaucoup.
Clair que c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à faire en tant que femme.
Ah, il y a très peu de femmes, clairement. Clairement, on n'est pas assez. Et d'où l'importance de, ouais, d'être plus visible, de rendre plus visible pour motiver plus de personnes aussi, plus de jeunes femmes qui à entreprendre dans la technologie, à faire des études. Okay. Technologique et monter des entreprises aussi.
Ça vous a pas empêché de lever et puis de créer un beau produit après plusieurs années, donc c'est rassurant.
Merci. Ouais, c'est rassurant. Bah voilà, enfin, c'est tout le monde. J'aime bien la phrase de Oussama qui dit que n'importe qui peut entreprendre. Pas exactement. Tout le monde peut entreprendre, mais enfin voilà, ça peut être anyone can be entrepreneur.
C'est ça.
Et j'adore ça, moi, je vous parlerai peut-être.
J'adore aussi.
Ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris avec ces vidéos parce que du coup, j'ai pas fait de. J'ai tout appris.
Oui,
tu t'es
formée toute seule, que ça soit sur la réalité virtuelle, sur. C'est que des sujets surtout. Finalement.
Le business, le management, la comptabilité, enfin. Et ça qui est génial parce que, enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Il n'y a pas une journée où j'apprends pas. Et c'est ça qui me passionne, c'est d'apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un de très, très curieux par nature, des fois un peu trop petit. Temps,
jamais trop. La curiosité, c'est.
Jamais trop. Mais au final, ouais, je me rends compte que ce qu'on m'a toujours dit comme un défaut, ou arrête de poser des questions, ou tu poses trop de questions. Mais en fait, non plus. Ouais, clairement. Je le vois.
Non, c'est donc, vraiment une richesse. Et du coup, pour revenir à.
Première levée de fonds. Ouais.
Pour revenir à Minsa. Après ce premier seed, on va dire, comment l'équipe a grandi aussi, puisque j'imagine que vous avez recruté plus de développeurs, comment le produit a évolué.
Donc à l'époque, donc en 2017, donc voilà, on fait cette première partie de, donc vraiment pré-amorçage, dans le sens où on a une idée, on a même pas un MVP, enfin, c'est vraiment un petit POC de ce qu'on voulait faire. Donc, on lève 350 000. On commence à recruter une équipe, plus de développeurs. J'ai l'impression que ça fait 10 ans maintenant. Enfin, c'est passé tellement de choses depuis. Et c'est en 2018 qu'on a refait un tour de table. On a eu aussi des financements par l'État. Je tiens quand même à le dire, l'État, on a de la chance quand même en France. On est soutenu, les entrepreneurs, on peut quand même chercher des financements. D'ailleurs, tous les projets n'ont pas besoin de lever des fonds, hein, justement. Si on peut aussi ne pas lever, tant mieux. Hein.
C'est clair.
Nous, on n'a pas le choix parce qu'on est à la fois dans la deep tech, à la fois aussi sur un marché qui est émergent et qu'on a besoin de financement pour développer la plateforme. Mais donc voilà, 2017, 2018, on accélère le développement et c'est en fin 2018 qu'on arrive à un premier. MVP, plateforme qu'on commence à ouvrir en bêta. Notre objectif était d'avoir vraiment du feedback de plusieurs industries, parce qu'on a travaillé du coup en collaboration avec nos partenaires culture. Donc en 2016, on était en partenariat avec le ministère de la Culture, avec, comme je t'avais dit, le musée d'art décoratif, mais également le Centre des monuments nationaux, qui régit en fait les 100 plus grands monuments de France, et le musée national d'archéologie. Et la culture, au final, c'est un très bon terrain d'expérimentation, dans le sens où ils sont très exigeants peu de connaissances techniques. Donc, c'était parfait pour nous. On voulait vraiment que n'importe qui, n'importe quel scénographe, commissaire d'expo, puisse utiliser la technologie sans avoir à se former à la technologie. On a pu faire pas mal de POC avec eux, notamment en novembre 2017. Donc ça, c'est la première fois où on a pu vraiment tester en fait toute la boucle de l'idée d'un projet à la création et à la distribution. Donc, c'était au château de Pierrefonds. Je ne sais pas si tu connais, dans l'Oise.
Okay.
Donc, c'est un super château. Et en fait, dans la salle des armures, qui s'appelle salle des armures parce qu'il y a 2 siècles, il y avait des armures de Napoléon. Et aujourd'hui, comme la plupart des monuments ont été en fait vidés, dépecés de leurs œuvres. Et aujourd'hui, ces armures sont aux Invalides. En fait, justement, là, la technologie, elle est absolument incroyable parce qu'elle permet en fait de recontextualiser une salle et de replacer en fait les armures dans leur écrin d'origine. Et donc, c'est vraiment en novembre 2017 que la chargée des publics du château, Caroline Calpena, qui a pu replacer en fait les armures dans leur espace d'origine. Elle l'a fait en 15 minutes.
Génial.
Et l'expérience a duré pendant un week-end. On a eu 200 visiteurs qui sont venus de tout âge. Et voilà, justement, on a vu aussi que ce n'est pas forcément les jeunes, comme on peut penser, qui étaient les plus émerveillés, mais aussi des personnes plus de 60 ans qui disaient, mais c'est de tout âge, ils disaient, mais c'est incroyable, il faut le déployer dans tous les, les châteaux.
Tu mettais un casque de réalité virtuelle. Ouais. C'était réalité virtuelle, c'est ça?
Non, il était augmenté. Virtuel, en fait, t'es vraiment poupée.
Oui, c'est ça.
Ouais,
donc, augmenté, tu voyais les armes, du coup, en réalité augmentée.
Ouais. Okay. Exactement. Tu t'approchais d'un endroit, tu avais le contenu sonore qui se déclenchait, tu t'approchais d'un mur, il y avait des statues qui apparaissaient. Donc, voilà, en fait, c'était vraiment l'étude pour comprendre s'il y avait de l'intérêt derrière. Et donc, oui, à 95%, les personnes voulaient revenir dans le lieu culturel, etc. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment 2017-2018. On a fait plein de tests avec nos partenaires. On ouvre les bêtas fin 2018. 2019, il y a eu quand même une grande update début 2019.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est que pour l'instant, on était surtout en partenariat donc avec Microsoft Corp, US, où on travaillait sur HoloLens. Et en fait, leur concurrent direct, Magic Leap, a ouvert un programme fin 2018 qui était un programme en fait de financement et d'accompagnement des meilleurs projets pour eux sur leur plateforme pour pouvoir leur permettre de développer sur le Magic Leap One. Et on a appris début 2019 qu'on était sélectionné. Donc on était super contents, donc on a été bien financé pour pouvoir porter sur leur plateforme et aussi avoir le soutien des deux leaders de l'industrie. Ça nous a pas mal et en plus à ce moment-là on devait refaire un tour de table, cette fois faire notre vrai levée seed parce que cette fois on avait un MVP, on avait un début de traction et cet investissement du coup a décalé un peu ça nous a laissé le temps de décaler un peu la levée de fonds de commencer en septembre dernier. Du coup, niveau timing, trop bien. On ne savait pas que Covid, ça allait arriver.
C'est un très, très bon timing.
Mais ouais, en fait, ça allait très, très vite. Ce tour seed, en quelques semaines, en fait, on a eu première LOI, on a signé tout bouclé fin novembre.
Okay.
C'est vraiment allé très vite. Et ça nous a permis de passer aussi cette crise. On espère, la passer cette crise. Mais on a pu, cette fois, 3 millions.
Ouais.
Et recruter vraiment l'équipe manquante, plus de développeurs. C'est une grosse plateforme parce qu'aujourd'hui, on est disponible sur Microsoft HoloLens, sur Magic Leap. Mais aussi, ce qu'on a fait en 2018, c'était ouvrir en fait le développement sur smartphone, tablette. Mm. Parce qu'au final, même si notre vision, notre objectif, c'est de pouvoir créer à même la plateforme immersive, à même voilà, casque, la paire de lunettes, c'est que ça prend du temps. Tant que Apple n'a pas sorti sa paire de lunettes, voilà,
ça va prendre. C'est clair.
Et on en est, et on en a conscience, on en est vraiment encore au début. Hein. Si tu vois un peu la courbe d'adoption des nouvelles technologies, c'est des phases qui se répètent à chaque fois, et on est encore au tout début, qui est les innovators, donc les créateurs de solutions et de hardware, enfin, software, hardware. Ouais. Et on est un petit peu après, qui est les premières personnes qui adoptent la technologie.
Ouais.
Ensuite, il faut voilà, passer cette étape et atteindre donc la majorité de la population. Et voilà, on a besoin de plus de contenu. Parce qu'au final, enfin, quand tu achètes un casque et que tu n'as que quelques expériences à faire, et,
c'est clair.
Enfin, voilà, on a besoin de.
Et donc Minsar, c'est du B2B, mais c'est aussi du B2C. C'est ça?
Alors, c'est B2B. C'est, dans le sens, on s'adresse aux professionnels de la créativité.
Ok.
Mais qu'on a des end consumers qui utilisent aussi Minsar pour eux-mêmes. Okay. La création est gratuite et on a vraiment voilà, pour objectif de rendre accessible cette technologie qui est aujourd'hui trop élitiste. Aujourd'hui, si t'es pas dev 3D, si tu maîtrises pas les moteurs 3D comme Unity 3D, Unreal Engine, tu vas pas pouvoir créer vraiment d'expérience sur ces nouvelles plateformes.
Ok, j'ai vu au niveau de votre pricing, vous avez 4 packs du coup. Un premier pack gratuit, puis après plusieurs packs évolutifs. Donc par exemple, si demain un créateur 3D va sur votre plateforme, c'est quoi les étapes du coup? Il crée son compte, comment ça se passe?
Ouais, trois étapes très simples. Première étape, c'est de télécharger l'application Minsar, donc que ce soit sur un téléphone. Ou un appareil immersif, si la personne a. Et vraiment, je tiens à dire, la création en immersion, elle est beaucoup mieux, dans le sens où sur ton téléphone, sur ta tablette, ce que tu perds, c'est la troisième dimension.
C'est ça.
Alors qu'avec le casque, tu as vraiment l'impression de 3D. Et au final, on se rend compte que l'édition d'une expérience 3D en 3D voilà, se fait de façon beaucoup plus intuitive parce que voilà, on arrive à mieux appréhender les distances. Donc voilà, on perd en fait vraiment cette immersion avec... la tablette, mais c'est essentiel aujourd'hui pour permettre vraiment à n'importe qui de comprendre le potentiel de la techno et de l'utiliser dans leur secteur d'activité. Que ce soit l'immobilier pour visiter les appartements en réalité virtuelle, que ce soit l'éducation, réaliser pareil des cours en immersion. On a en fait ce que permet la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est de simuler le souvenir. Ce qui permet du coup de mieux apprendre, de mieux comprendre et mémoriser quelque chose. Okay. Donc pour l'éducation, c'est absolument parfait. Et pour le Covid, si toutes les écoles avaient déjà implémenté ces technos, ça aurait été beaucoup plus simple pour faire des cours immersifs.
C'est sûr.
Enfin, voilà, pour tous les secteurs, on peut trouver son intérêt.
Et donc on prend l'exemple avec le casque. Du coup, il prend son casque, il installe Minsar et à partir de là, il peut créer du coup.
Et là, il peut commencer à créer. En fait, Minsar, on peut le comparer, à un CMS 3D, mais dans la création, un peu à un PowerPoint, dans le sens où Minsar permet d'importer du contenu, ton contenu, le contenu de nos utilisateurs, donc importer des modèles 3D,
voilà,
ils en ont, des images, des vidéos 360, des vidéos volumétriques. Mm-hmm. Ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le fait de capturer en fait, avec plein de caméras. Quelqu'un en mouvement, un danseur ou autre, ça, le créatif va pouvoir l'importer dans la scène et ensuite commencer à l'animer. Parce qu'une fois que voilà, on a importé ce contenu, on va vouloir en créer une expérience interactive, innovante, engageante et ajouter du coup des animations sur les objets. Par exemple, je suis sur le site de telle ou telle entreprise et je veux afficher ces chaussures en 3D. Je vais cliquer dessus, ça va l'afficher sur ma table et je vais pouvoir faire tourner les éléments, ajouter d'autres informations, cliquer par exemple en cliquant sur la chaussure, ça redirige vers le bon site internet. Donc voilà, c'est en fait éditer les éléments et créer vraiment une scénographie, scénariser en fait le contenu. Okay. C'est un peu voilà, c'est le storytelling qui est au final du story living et qui permet de accélérer l'action d'acheter vraiment.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la typologie de vos clients?
Alors aujourd'hui, ce sont vraiment les professionnels de la créativité qui sont de différentes sortes. On a les freelance, graphic designer, les agences de création qui vont qui créent, qui ont déjà un pipeline de clients et qui vont créer du coup les campagnes marketing, les campagnes produits pour leurs différents clients, peu importe leur secteur. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les grands groupes, les entreprises qui ont déjà un pôle créa en interne, qui préfèrent internaliser la création et qui vont utiliser et déployer en fait en interne Midstar comme module de réalité augmentée, que ce soit par exemple pour le real estate, l'immobilier, déployer dans toutes les agences la possibilité de visualiser le parc immobilier en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Voilà, ça c'est possible.
Okay.
On a des belles expériences à venir.
Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Midstar? Vous êtes combien de salariés, combien de clients, par exemple, tout ça?
Ouais. Donc aujourd'hui, on est 26 employés. Clients, en fait, on lançait la commercialisation là pendant le Covid, donc pour le coup, très mauvais timing. Donc la plupart, c'était un peu compliqué. C'est pas le bon moment pour lancer un produit.
On va en parler juste après aussi de ce Covid.
Ouais. Du coup, clients, on a qui je peux citer? Je pourrais bientôt en citer pas mal, des grands noms. Ouais.
Très bien.
Sinon, on a des agences partenaires, des agences de création 3D. Une des expériences qui avait été mise en prod juste avant le Covid, d'ailleurs, 2 semaines avant le Covid, c'est avec Miyume. Je ne sais pas si tu connais. C'est les leaders du packaging cosmétique.
Ok.
Et en fait, qui souhaitent proposer à leurs clients, que ce soit un L'Oréal, un Sephora, etc., de proposer en fait le packaging en réalité augmentée.
Ouais, forcément.
Et ils avaient fait du coup une expérience juste avant le Covid et plus à venir prochainement.
Ok, très bien. Et du coup, c'est quoi les objectifs futurs pour Midstar?
Les objectifs, c'est
pour les prochains mois, les prochaines années.
C'est de vraiment lancer la plateforme, la commercialiser. De mettre vraiment en fait à réalité augmentée le potentiel de ces technos dans les mains de tout le monde, de se rendre compte en fait de l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui les technologies ne sont pas encore assez connues et insister sur l'expérience utilisateur dans le sens où l'expérience doit être qualitative pour l'utilisateur final. Si l'expérience est déceptive, si quelqu'un met un casque et l'expérience lui donne la nausée ou n'a pas été pensée vraiment pour l'utilisateur, il va mettre le casque dans un coin et il ne voudra plus l'utiliser. Donc, souvent, j'en parle avec l'écosystème de réalité augmentée et réalité virtuelle sur l'importance de l'expérience utilisateur et de prendre soin en fait, de l'utilisateur. Et ça, c'est un de nos gros focus. Rendre accessible la plateforme France et à l'étranger.
C'est déjà très bien.
C'est déjà un beau
challenge. Et donc maintenant, on va s'intéresser forcément à la période qu'on a vécue ces quelques semaines. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business?
Alors business, ça nous a bien une claque dans la tête, surtout que moi j'étais à New York. Je suis arrivée à New York le jour où Trump a annoncé la fermeture des frontières.
Ah ouais.
Donc niveau timing encore une fois, j'aurais jamais dû. Mais on avait des très très beaux rendez-vous et des beaux events quand même prévus. Mais donc j'atterris le mercredi, je sais plus, c'était le 11 mars. Hein. Donc on atterrit et là depuis ma chambre d'hôtel, je vois Trump qui annonce dans 2 jours fermeture des frontières. Cassez-vous de là, les Européens. Du coup, j'ai passé 20 heures à Manhattan. C'est un peu honte. On est revenu. Et les US, c'est compliqué encore maintenant.
Hein, c'est très compliqué.
C'est pour ça qu'on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance
Bah, on a bien su gérer, ouais, pour l'instant. C'est...
Il y a eu beaucoup d'aide déployée, c'était assez incroyable. Après, c'est maintenant que ça va être plus compliqué hein, pour les business. Nous, on le voit avec des clients qui sont un peu posture assez compliquée, que ce soit des petites agences, etc. C'est maintenant que ça va être compliqué, sans chômage partiel, etc.
Oui, puis en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague aussi, parce que c'est
aussi
beaucoup de boîtes dépendent de ça aussi.
Complètement, et on voit plusieurs pays, villes qui commencent à reconfiner un petit peu. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc niveau business, tout a été soit annulé, soit décalé. Voilà, mais heureusement, on a levé des fonds juste avant, donc on a été très résilients, on a arrêté les recrutements qu'on avait prévus en plus. Donc voilà, par contre, ça a été. Enfin, je le vois plus comme une opportunité dans le sens où on a pu vraiment se concentrer en fait sur le développement. On a pu plus mieux écouter aussi nos utilisateurs, développer les fonctionnalités qui étaient le plus voulues. Donc voilà, la cadence en termes de développement produit, on n'a pas trop souffert, on n'a pas eu trop de ralentissement. Donc ça c'est une bonne chose. Personne n'est au chômage partiel, hein, tout le monde à travailler
en remote.
Même l'équipe marketing, ouais, tout le monde en remote. On avait déjà, avec les grèves, on était déjà bien préparé pour la remote, donc ça c'était une bonne chose. Plus on a trois employés qui sont full remote, donc tous nos outils en ligne, on est
vous étiez prêt.
Un peu full virtuel, ouais, on était prêt. Sauf que on a des bureaux qui étaient vides du coup.
Ouais.
Mais donc voilà, niveau business, ouais, ralenti, mais là on voit que ça commence à reprendre depuis début juin. On n'arrête pas, on a vraiment tous les jours des démos, des super, des beaux deals à venir. Donc on voit que justement au final, je le vois vraiment déjà par nature. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc c'est tout est opportunité, même quand c'est le pire moment possible. Non, ça va aller, on va s'en sortir. Et justement en fait. Pour la première fois de l'histoire, on a eu quand même presque la moitié de la population enfermée chez soi. C'est assez incroyable quand même, parce quand tu te poses, moi vraiment, je disais, mais c'est dingue quoi. Mm. On est tous enfermés chez soi. Mais si tout le monde, mais imagine, si tout le monde avait un casque de réalité virtuelle, mais trop bien. Enfin, nous du coup, on s'éclatait, on se faisait des apéros virtuels, on se faisait. Mais voilà, ça arrivait un peu trop tôt ce Covid.
Vous êtes fait des apéros virtuels en réalité virtuelle?
Ouais, on fait des meetings en VR, en réalité augmentée. On a donc notre partenaire Magic Leap qui est aussi. On a des appareils, on a un peu tous les appareils possibles. Donc chacun était équipé chez soi avec des appareils immersifs. On a pu aussi pas mal y jouer, c'est sympa. Mais voilà, en fait, ça a surtout fait prendre conscience de l'importance du numérique et accélérer les usages du numérique. Que ce soit, tu vois, les vidéoconférences, Zoom, là, on est sur Zoom, et c'est un exemple parfait.
C'est clair.
Ils sont passés de 20-30 millions daily users à 300 millions.
Ouais.
C'est un délire. Et au final, pourtant, les visioconf, ça existe depuis plus de 10 ans, 10, 15 ans. C'est pas nouveau. Mais c'est vraiment là, pendant le confinement, qu'il y a eu une véritable accélération. Cette fameuse transformation digitale prônée depuis des années maintenant par grands groupes, etc. C'est maintenant qu'elle a vraiment eu lieu. En tout cas, elle était véritablement accélérée dans le sens où des entreprises qui n'avaient pas du tout l'habitude du télétravail, du remote working, a été obligée, contrainte de le mettre en place. Et même si au début, c'était un petit peu difficile les premières semaines, après, ils se sont rendus compte que, en fait, c'est pas si mal. En fait, ça save le temps de transport. Et ça fait prendre conscience à plein de monde que, au final, le virtuel a son intérêt.
Je pense que ça a fait évoluer les mentalités dans certaines entreprises, c'est sûr.
Complètement. Plus des secteurs qui vont devoir complètement se réinventer.
Exactement.
Soit la retail, le luxe. On n'a jamais eu autant de demandes du luxe aussi le fait de proposer leurs produits en réalité augmentée, faire des défilés virtuels. Ça, on a pas mal avec les Fashion Week qui seront virtualisés complètement. En septembre, il y a pas mal de trucs assez sympas qui vont arriver.
Ok. Et maintenant, on va parler des rencontres et de l'entrepreneuriat en général. Sur les rencontres, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap dans ton business ?
Plein. Il y en a eu plein. Enfin, si j'ai un conseil à faire aux jeunes entrepreneurs, c'est s'entourer. Vraiment, surtout, moi, voilà, en montant l'entreprise à 20 ans, sans avoir fait d'école avant, j'avais tout à apprendre. J'ai toutes les conneries possibles, je pense. Bon, pas toutes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Mais voilà, dans le sens où dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, je demande à mon entourage d'entrepreneurs, d'investisseurs. J'ai eu pas mal de mentors. Dès cette première levée de fonds, j'ai eu Jean-Pierre Martin, un de mes investisseurs qui m'a un peu coaché toutes les semaines.
Super.
Et le Galleon Project, par exemple, qui est le, je sais pas si tu connais, donc le think tank des entrepreneurs porte croissance, et justement, enfin, ça aide beaucoup d'avoir des retours d'expérience.
Oui, puis des gens, des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi et qui, du coup.
Ouais, c'est ça, qui sont au même stade, qui scale plusieurs dizaines d'employés. Et, parce qu'au final, on n'en parle pas assez, mais l'entrepreneur est quelqu'un de très seul. Et vraiment, à des moments, c'est dur. On bosse comme des fous, on peut bosser 100 heures par semaine. C'est compliqué d'avoir une vie sociale à côté. Et du coup, d'avoir des moments pour échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, qui ont pu régler tel ou tel problème avant. Voilà, on peut s'entraider apprendre des uns des autres.
Ouais, clair. Et seconde question, est-ce que tu peux me citer deux ou trois entrepreneurs qui t'inspirent ?
Alors, il y en a beaucoup. Oussama Ammar, clairement. Ces vidéos, moi j'apprends beaucoup en regardant aussi des vidéos. Je lis beaucoup, mais je regarde aussi beaucoup de vidéos, et les vidéos de Oussama Ammar. Je pense que
c'est
une génération qui a pu s'identifier, apprendre plein de choses.
Sur coup d'État notamment, mais je pense que c'est la personne que j'ai eu le plus en termes de ref, en fait, de gens qui disent que c'est que Oussama les inspire, quoi. C'est vraiment
Sinon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être inspiré par des personnes connues, dans le sens où moi je suis vraiment inspiré par mes équipes. Ils m'apportent, ils m'apprennent énormément de choses. C'est dans les deux sens, en fait, tout le temps.
Exactement.
Et je suis inspiré par mon associé. On se complète parfaitement, on se ressemble aussi beaucoup. Je suis inspiré par plein de gens, plein de choses. Et c'est pas forcément une figure qui m'inspire. Je sais pas trop comment.
Non, mais je comprends parfaitement. Et troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Qui hésiteraient, encore une fois, s'entourer. Avoir des retours d'expérience. Avoir conscience aussi de la difficulté derrière, que clairement tout n'est pas tout rose. Quand on ouvre les magazines, on raconte que ce qui est cool, on raconte les levées de fonds. Déjà, les levées de fonds, c'est un peu un mythe, dans le sens où ça arrive pas souvent, que c'est pas un critère de réussite.
Et puis quand ça arrive, ça transforme beaucoup de choses dans ta boîte. Le fait aussi que tu aies un board, que tu n'aies plus 100% de ton capital, c'est une levée, c'est pas juste de l'argent qu'on te donne comme ça et puis fais-en ce que tu veux. Non,
tu rends des comptes.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est sûr.
Non, c'est ça. Et pas non plus glorifier et dire que c'est un goal à atteindre, vraiment un objectif, alors que non, c'est limite, les problèmes commencent après.
Exactement.
Si tu ne lèves pas et tu arrives à bootstrapper ton business jusqu'au bout et ensuite lever beaucoup, mais quand tu as déjà cette traction, etc. Mais tant mieux. Et encore une fois, tous les entrepreneurs ont leur histoire, tous les produits, les business, il n'y a pas qu'une route, en fait. Il y a autant de routes que d'entreprises, que d'entrepreneurs. Et c'est pas parce qu'une route a fonctionné pour un entrepreneur qu'elle fonctionnera pour tous les autres. Et voilà, il faut aussi se construire cette route en apprenant des autres routes et en sachant que ils en sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont évité tel ou tel roadblock.
C'est clair, c'est pour ça que ce podcast existe aussi. C'est parce que sur les 24-25 entrepreneurs que j'ai interviewés, il n'y a absolument aucun entrepreneur,
génial,
aucun parcours qui se ressemble. Et c'est juste normal, en fait. C'est cool.
S'entourer, échanger, partager. En fait, c'est vraiment quand on partage aussi. Maintenant, je partage. J'ai beaucoup appris des communautés, de mes investisseurs, des différents entrepreneurs. Maintenant, je partage aussi parce qu'au final, même si je suis toujours très jeune, hein, j'ai que 24 ans. Il y a eu quand même pas mal de choses dans la boîte, pas mal d'erreurs, pas mal de. Mais voilà, enfin, on apprend à chaque fois. Enfin, chaque erreur, c'est une leçon à apprendre, à en tirer. Et voilà, et après.
Très bien.
Tout le monde peut entreprendre.
Exactement. Et puis, on va finir par deux questions. La première, c'est: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Si on n'a pas, peut-être un peu. Non, ouais, on a quand même parlé de pas mal de choses. Après, peut-être, moi, je suis quelqu'un d'assez engagé dans le sens où, voilà, je suis une femme. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat. Plus de femmes, voilà, qui lèvent des fonds, qu'on soit mieux représenté. Au final, enfin, la parité, elle n'y est pas du tout. Mmh. Et on a besoin d'être plus visible. Et c'est partie de mes actions, que ce soit avec Sista Starter, avec Woman in AI, Femme Entrepreneur. Enfin, je suis pas mal engagée.
Ouais, il y a de plus en plus d'initiatives. Ça, c'est vraiment bien. Il faut vraiment les soutenir. Je pense aussi à Gold Up, forcément de The Family, avec Alice Zaguri notamment. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est des initiatives qui sont de plus en plus présentes. Et il en faut encore plus pour que justement ça devienne une normalité, en fait. Et pas qu'on...
Complètement. J'aurais bien aimé voir des vidéos de plein de femmes entrepreneurs réinventer le monde. Et voilà, je pense que ça aurait. Après, ça n'empêche pas de réussir après, mais voilà, il faut qu'il y ait plus de. Se dire que c'est pas parce que je suis née comme ci, comme ça, si je suis de tel genre, de telle origine, de telle couleur, etc., que je vais m'empêcher de faire quelque chose.
Exactement.
Voilà, moi je suis née dans le 93, j'ai grandi dans le 95. Je suis une famille moitié arabe, moitié française. J'ai un peu. Et ça ne m'a pas empêché de monter une entreprise, d'être aujourd'hui 25-30 dans les équipes, d'avoir un produit sympa. Encore plein de choses à faire. Il y a toujours encore à prouver, toujours. Mais voilà, je ne me suis pas dit. Même si à des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, le syndrome de l'imposteur. Régulièrement, c'est dur de ne pas l'avoir. Mais voilà, ça aide aussi d'échanger avec d'autres personnes. Ouais. Et de s'identifier aussi.
Carrément. Et puis, dernière question. Est-ce que tu peux me donner des noms d'entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes?
Ouais, plein. Mais du coup, pour
continuer avec ce que je viens de dire.
Ouais, des femmes entrepreneurs.
Ouais.
Agathe Vautier, je pense que ce serait pas mal, qui est la fondatrice du Galleon Project, pour aussi expliquer un peu ce qu'elle... les modèles qu'elle trouve du coup chez les entrepreneurs qui réussissent, ça peut être hyper intéressant. Mm-hmm. Après, pareil pour les différents réseaux, donc Sista, Starter, ça peut être Tatiana, Roxane Barza, ça peut être intéressant. Tu m'as dit que 2-3, sinon il y en a plein.
Ah non, mais tu veux... ça me va, c'est bien, c'est parfait.
Ok.
Donc, je te remercie, Soraya, pour cet épisode. Et puis, bientôt sur Salam Entrepreneur et puis sur Minsar aussi. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Minsar.
Yes, venez. C'est gratuit, la création. Allez-y, éclatez-vous.
C'est parfait.
N'hésitez pas à me contacter. Et merci encore, François, et bravo pour ce que tu fais. Hein. C'est hyper utile, inspirant. J'ai regardé tous tes podcasts avant et
c'est sympa.
C'est génial.
Merci beaucoup. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.